L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bienvenue à chacun.
Bonjour à tous.
Pour cette nouvelle étape dans ce parcours avec l'Évangile pour le couple. Et nous continuons notre méditation, notre interpellation personnelle, conjugale, depuis 2-3 rencontres sur le sens de la sexualité. Nous avons notamment, la dernière fois, davantage médité que cette sexualité, cet appel de Dieu sur la sexualité humaine conjugale au cœur du mariage revêtait une immense bénédiction, mais aussi un vrai combat, un combat spirituel au niveau du cœur. Et nous allons essayer aujourd'hui de davantage pénétrer le mystère et surtout accueillir comment nous pouvons mener ce combat pour être fidèles de cœur et d'esprit à une seule chair conjugale dans notre vie de mariée. Et c'est pour cela que nous allons prendre juste un verset dans le chapitre de Matthieu, au chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et pour compléter, on pourrait reprendre dans la première épître aux Corinthiens ce que dit saint Paul. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée n'est avec elle qu'un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Je crois, Maud, qu'il nous faut davantage comprendre, saisir ce que veut nous signifier la parole de Dieu, notamment au niveau du combat qui se passe au niveau du cœur concernant une seule chair, cette fidélité à une seule chair.
Oui, puisque nous sommes appelés à ne pas commettre l'adultère, nous savons que l'adultère c'est la rupture de cette communion conjugale, et dans toutes les civilisations, l'interdit de l'adultère est comprise et je veux dire quelque chose que nous portons chacun en nous-mêmes. Or, ce qui est intéressant, c'est que Jésus le place au niveau du combat du cœur, puisqu'il dit quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère. Donc on pourrait considérer que Jésus est extraordinairement exigeant, parce que ça veut dire rien qu'un regard posé sur une femme et on est déjà dans l'adultère. Et je pense qu'il est intéressant de réfléchir à ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des situations où la tentation devient trop forte pour pouvoir y résister, mais parce qu'ils n'ont pas travaillé leur cœur avant. Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Attention, lorsque vous arrivez à une situation où vous n'êtes plus dans la fidélité conjugale, c'est que depuis longtemps déjà, votre cœur a été touché et votre cœur s'est laissé grignoter. Donc ce mécanisme de la tentation, il faut bien le comprendre pour combattre au bon niveau. Quand dans notre cœur, on a un désir qui est éveillé par une autre personne que nous voyons, qu'est-ce qu'on fait de ce
par
sentiment,
images, ou
par
etc.
des images, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment? Est-ce que on commence à trouver ça agréable, ah, tiens, elle est jolie, oh, c'est sympa cette affiche, ça me fait des petits émois, ça m'émoustille, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et si on commence, tous les spirituels vous diront que le combat se gagne d'abord dans la tête et dans l'imagination, c'est-à-dire que si on commence à discuter avec la tentation, c'est-à-dire à faire de la mayonnaise autour de cette image qui nous a touché ou de cette instant fugace où on a ressenti des choses, à partir du moment où on commence à rentrer dans cette idée-là, alors on commence déjà à se laisser grignoter intérieurement par l'infidélité. Et c'est en se laissant prendre petit à petit de plus en plus qu'à un moment, eh bien, on n'arrivera pas à résister et on tombera dans les bras d'un autre ou d'une autre. C'est-à-dire que notre cœur, depuis déjà longtemps, avait pris l'habitude de discuter avec la tentation, c'est-à-dire de se laisser faire par les images, les émotions et tout ce qui jaillissait de ce genre de rencontres et d'images.
Je crois qu'il faut vraiment bien souligner dès maintenant, je crois qu'on l'avait déjà évoqué lors d'une précédente émission, c'est qu'on n'est absolument pas en train de faire la moralité, etc., à 2 sous et à 2 euros. On est tous concernés et on est tous pécheurs. Et on est tous pauvres face à cette situation. D'une manière ou d'une autre, soit effectivement qu'on soit facilement tenté, soit au contraire qu'on est assez sûr de nous-mêmes et on est assez pharisien pour juger les autres, on est tous concernés. On est tous concernés. Et comme l'épisode de la femme adultère l'exprime bien, eh ben, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et il partit en commençant par les plus vieux. Hein. Donc, plus on avance en âge, plus on est concerné. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. C'est une prise de conscience. Mais ça va parce qu'on est tous concernés que c'est infiniment insignifiant et donc il faut s'en satisfaire. Non. Parce que si on s'en satisfait, à ce moment-là, c'est le début de la mort et c'est le début de la mort spirituelle. Et c'est pour cela qu'il faut être là aussi encore d'une grande vigilance, mais aussi plein d'humour, mais de conscience de notre pauvreté. Mais aussi d'avoir foi en la libération du Christ. Et que le Seigneur peut nous conduire sur un chemin. Parce que notre bonheur, c'est quoi? Notre bonheur, c'est d'être vraiment fidèle à ce une seule chair. Qui peut y être fidèle? De lui-même? Personne. Quel est l'homme qui n'a pas eu, qui à maman n'a pas désiré une telle ou une telle, etc. Quelle est la femme qui à maman n'a pas été émoustillée, troublée par tel ou tel homme, etc. Sans parler, bien sûr, d'autres situations. Donc, nous sommes tous concernés par ce contexte. Et de plus en plus, dans le monde dans lequel nous rentrons, le monde étant balancé à tout vent de doctrine, ce monde étant complètement traumatisé par le manque d'amour, la sexualité va être de plus en plus débridée et la tentation va être de plus en plus omniprésente. Donc, c'est une situation dans laquelle nous sommes tous. Mais nous avons vraiment à regarder et à mener ce combat parce que c'est un combat pour notre libération. Notre plus grande joie, c'est de pouvoir être fidèle de corps et de cœur à notre conjoint ou à notre futur conjoint. Et donc, c'est un combat, c'est le plus grand combat, c'est sans doute le plus difficile à mener, mais aussi le plus passionnant parce que c'est aussi le plus exaltant.
Voilà, mais il est beaucoup plus facile de tirer sur une petite mauvaise herbe que d'attendre que le chêne ait 15 mètres de haut pour le déraciner. Donc, dans ce sens-là, si nous sommes vigilants et que nous sommes capables, dès qu'on voit émerger dans notre cœur une petite tentation, un désir malsain, tout de suite de réagir, de confier ça au Seigneur, de lui demander de nous libérer de ça, éventuellement d'en parler à son conjoint sans donner de détails, mais voilà, après pour moi j'ai été troublée par quelque chose, j'ai eu un cauchemar bizarre, etc. Ça suffit souvent pour couper la petite plante qui est en train de s'enraciner dans notre cœur. Et si on la tire à ce moment-là, alors on peut être préservé beaucoup plus longtemps et beaucoup plus dans la communion l'un avec l'autre. Et c'est dès qu'on laisse envahir en nous ces pensées malsaines, elles enflent et après on ne peut plus les maîtriser. Et on arrive dans des situations où à ce moment-là, l'adultère de corps est quasiment inévitable et vient rompre cette alliance qu'on avait conclue avec quelqu'un.
C'est pour ça qu'il y a un point qu'on aimerait souligner ici et que nous avons observé dans plusieurs situations. On parle beaucoup, vous savez, du démon de midi qui va prendre à la trentaine ou à la quarantaine ou à la cinquantaine, etc. Et qui finalement va surprendre apparemment la personne. Donc, effectivement, c'était... Mais quand on se rend compte des choses et qu'on parle avec les personnes, on se rend compte bien souvent, il y a toujours des cas bien entendu différents et tout, hein, et chaque cas est particulier et doit se respecter en tant que tel. Mais dans nombre de cas, effectivement, cette tentation, cette personne rencontrée, etc., ça va se passer en 2 jours ou 3 jours, mais finalement on se rend compte que le mécanisme de la tentation ronge comme la mer la falaise depuis des semaines, des mois, parfois des années. Et puis à un moment, ça va la mer, eh ben la falaise s'écroule. Et effectivement, à un moment, l'expérience, je dirais, du démon de midi vient fracturer un couple qui apparemment tenait très bien la route, et s'aimait énormément, et était fidèle, etc., etc. Mais il n'y a pas eu de prise de conscience de sa pauvreté, de son péché, et qu'on disait, oh, bon, de toute façon, nous, il nous en va rien, mais non, il n'y a pas de problème, c'est bon pour les autres, etc. Non, on est tous concernés, et nous le premier. Et Alex et Maud le premier. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Et nous avons à prendre conscience que nous sommes pauvres et pécheurs. Et en tout cas que nous avons un sauveur qui est là pour nous conduire sur ce chemin à la libération. Et ça, c'est une vraie libération, de ne pas être esclave de nos passions, de ne pas être esclave de nos tentations, mais de travailler justement à leur purification pour la fidélité, parce que c'est pour notre bonheur personnel, conjugal, familial, familial, pour nos enfants. Menons ce combat de la fidélité et de la purification, ne serait-ce que pour nos enfants, car nous savons combien c'est douloureux, cette expérience de l'adultère qui va conduire à la séparation, bien souvent à la séparation du couple, en tout cas à beaucoup de souffrance, et ceux qui vont souffrir le plus après, ce sont nos enfants, même si bien sûr les conjoints aussi en souffrent énormément.
Qu'il ne faut pas négliger ce travail que nous avons à faire dans la communion de nos couples, parce que ces tentations évidemment surgissent d'autant plus facilement qu'il y a manque de communion, manque de dialogue, manque d'échange, manque de proximité. Rappelez-vous, en Genèse 3, on en avait bien parlé, parce que finalement la femme a été tentée au moment où Adam n'était pas à ses côtés. C'est quand il y a séparation. Monsieur est absorbé par son travail, madame par ses activités, ses enfants, elle court du travail aux courses, etc. Et l'homme part pour faire des loisirs avec des copains, et finalement il se réduit progressivement la phase, je dirais, les temps d'échange, de communion dans le couple, et c'est cette division qui est propice à faire germer la tentation. Donc si on est vigilant à la fois à maintenir la communion et à la fois à sortir de nos cœurs les toutes petites plantules qui commencent à jaillir au niveau des toutes sortes de tentations, alors on sait que le travail va être facilité pour la suite et qu'on peut aborder avec plus de sérénité le jour qui vient. Is an awesome God, he reigns from heaven above. We wings the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above. We wings the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns. Thank you.
Voilà, nous continuons notre cheminement autour de la révélation sur le une seule chair révélée par le Christ et par l'Église et qui nous rend plein d'actions de grâce mais aussi d'exigences pour que nous puissions vraiment goûter cette grande bénédiction. Et je crois qu'il est important de souligner cette importance de cette fidélité qui est comme génétiquement ancrée en nous au-delà de nos différentes confessions religieuses. C'est un pédopsychiatre qui parle, qui a écrit un livre justement sur l'adultère et qui souligne combien cette question adultère, du drame de l'adultère et de la fracture, de l'infidélité d'une seule chair au sein d'un couple, porte des fruits d'une extrême souffrance bien au-delà des différentes religions. C'est vraiment quelque chose qui traverse l'histoire, les différentes civilisations, ce sentiment de trahison. Et à la fois, c'est quelque chose qui est au cœur de la révélation biblique et qui semble rejoindre effectivement l'anthropologie et l'expérience humaine. Voyons autour de nous effectivement celui ou celle qui a été trompé, comme on dit dans le langage courant. C'est un drame. Il y a beaucoup d'erreurs ou de péchés dans un couple qui sont graves, mais qui sont pardonnés. Cette question de la rupture d'une seule chair est quelque chose qui est un gouffre souvent qui s'ouvre sous les pieds de celui ou celle qui est trahi. Et nous vraiment nous sommes tout à fait conscients de cette grande délicatesse et de cette gravité, et nous pensons et prions en cet instant pour tous ceux qui de près ou de loin sont concernés. Mais ce n'est que pour souligner combien l'expérience d'une seule chair, de la fidélité d'une seule chair est absolument fondamentale et rejoint notre loi humaine universelle.
Oui, je pense qu'à partir du moment où notre amour se célèbre dans la sexualité, lorsque l'un ou l'autre des conjoints vient à exercer cette sexualité à l'extérieur du couple dans lequel il a décidé de faire alliance et de durer, que ce soit dans le mariage ou d'ailleurs dans une relation, je dirais, un peu inscrite dans la durée, il y a une détresse terrible parce qu'il y a rupture de ce une seule chair, rupture de ce signe même de la communion et de l'intimité du couple. Et dans cette rupture, la personne qui est trompée va ressentir une immense détresse, va douter à sa capacité d'être aimée, va être remise en cause très profondément et avoir une grande angoisse. Les fruits sont terriblement mauvais, je dirais que ça semble évident, mais si jamais on prenait des pages de saint Paul sur les fruits du péché, c'est-à-dire le côté négatif, c'est de loin ce qui l'emporte dans la situation de l'adultère, de très loin. Et sur ce point de vue-là, je pense qu'il y a un grand mensonge dans le monde où on considère qu'il est tout à fait normal de rafraîchir.
Ça devient courant, ça devient dans le cheminement courant d'un couple, tôt ou tard, ça vient arriver et on le banalise. Et nous voulons, on veut vraiment insister et vraiment rejoindre par la pensée, par la prière, tous ceux et celles, hommes ou femmes, qui sont concernés par cette rupture. Parce que c'est vraiment une expérience d'une douleur très intime.
Oui, je pense qu'on ne peut pas passer sur cette question sans justement voir le sens profond que revêt cet adultère, parce que c'est à cause de cette unicité, si je puis dire, de la sexualité vécue dans le cadre d'une union conjugale, que à ce moment-là, la rupture est si significative. Elle touche à l'existence même, puisqu'on est appelé à être un seul être quelque part, tout en restant deux. Mais cet être-là disparaît et il est broyé, il n'existe plus, il est blessé, il est terriblement blessé. Et dans cette blessure-là, jusque dans cette blessure-là, le Christ vient bien sûr apporter une parole d'espérance, pourvu qu'on reconnaisse qu'effectivement nous avons fait fausse route et que nous avons besoin de lui pour guérir cette blessure que nous avons commise.
Et c'est tout le sens effectivement de l'évangile qui effectivement souligne tout à fait la gravité, la grande gravité, parce que ça a des fruits, j'ai bien de mort dans le cœur, et à la fois l'immense miséricorde. Ce qu'il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Donc vraiment une invitation à la conversion, à avancer, à ne plus exercer effectivement ce péché, à ne plus s'adonner à ce péché, à cette invitation à la réconciliation, mais à la fois tout en soulignant, hein, vraiment c'est vraiment le sens évangélique, le sens de la gravité de cette situation.
Et si on regarde ensemble justement une des façons d'être dans une dynamique positive par rapport à notre propre sexualité, pour éviter ces situations d'adultère, nous avons à vivre en permanence avec cette interrogation profonde, et qu'est-ce que je fais de ma tendresse vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de mon époux? Est-ce que je grandis dans l'écoute? Est-ce que notre sexualité porte des fruits de vie ou porte des fruits qui nous entraînent vers la distance, vers la sécheresse, vers l'abandon?
Voilà, et je crois que c'est vraiment important que ce dialogue, Maud, que tu soulignais tout à l'heure, dans le couple, il s'exerce vraiment au niveau de la sexualité, que nous puissions vraiment relire entre nous, en vérité, avec humilité, comment justement s'exerce cette sexualité entre nous. Certains parlent de la sexualité un peu comme un thermomètre, entre guillemets, c'est pas du tout les exercices qui sont intéressants, c'est la manière dont nous le vivons, comment ça habite mon cœur, quels sont les fruits que ça porte à ma vie, est-ce que c'est les fruits de bénédiction, est-ce que c'est les fruits de tristesse, qu'on puisse vraiment relire ensemble, est-ce que notre sexualité est apaisée, est-ce qu'elle est passionnelle, est-ce qu'elle est écoutante, est-ce qu'elle est routinière, est-ce qu'elle est riche, simple, est-ce qu'elle reste fraîche, entre guillemets, malgré les années, au fil des années, est-ce qu'on est simplement à la recherche de la performance, est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on est rigide, voilà, c'est important de pouvoir relire ensemble, avoir cette délicatesse paisible. Bon, c'est parfois pas évident, parce qu'on ne sait pas forcément nommer les choses, il y a aussi une pudeur, et donc il est important d'avoir aussi cette, en tant que chrétien, d'avoir cette relecture ensemble de notre sexualité, de la manière dont nous vivons les choses, justement pour anticiper, pour pouvoir aussi mener un chemin de guérison.
Justement, une des façons de vérifier, si je puis dire, la beauté de la sexualité que nous vivons ensemble, c'est de lire l'écho qu'elle porte dans nos vies après. Je crois que c'est très important de laisser son cœur dire à quel point cette sexualité va nous pousser vers plus d'amour, plus de tendresse, plus de joie de vivre, ou au contraire, elle va être lourde, elle va nous éteindre, elle va nous peser. Et c'est en lisant ces fruits de l'esprit que, à tâtons, on arrive à améliorer notre relation charnelle et à faire qu'elle soit le lieu, au contraire, d'une action de grâce et qu'elle soit nourriture. Et c'est un des autres conseils de Saint Paul qui dit dans ses lettres, ne vous refusez pas l'un à l'autre, soyez vite ensemble. L'exercice de la sexualité est constitutif de notre couple et doit être quelque part une nourriture de notre communion. Si c'est le lieu d'un désastre, si je peux dire, d'une division, d'un malaise, alors notre vie de couple aura du mal à se nourrir de cette relation-là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, il faut reprendre la façon d'exercer notre sexualité, il faut relire ça ensemble. Pour l'ajuster, ce n'est pas normal. On est appelé à vivre dans ce don mutuel avec joie et avec action de grâce, un moment de communion tout à fait particulier.
Voilà, et c'est très important, Maud, que tu soulignes, c'est que le travail de conversion de la sexualité ne se passe pas par l'absence d'exercice de la sexualité. Bien sûr, il y a des temps de continence, etc. Et c'est important de pouvoir le découvrir par rapport à la gestion aussi de notre fécondité responsable, etc. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que sur l'aspect de la relation, Saint Paul dit « Je vous exhorte à vous abstenir de désirs charnels qui font la guerre à l'âme, mais ne vous refusez pas l'un à l'autre ». Donc c'est ça qui est important. Même à des moments, il dit « Allez prier, mais ne restez pas aussi trop longtemps en prière ». Mais aussi, ne vous refusez pas l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes pas simplement des êtres spirituels, nous sommes des êtres incarnés, et nous avons à vivre cette purification de notre sexualité, notre vocation de couple, au travers de son exercice. Et c'est au cœur de cette expérience que nous avons aussi à faire un travail de relecture, de purification. Et c'est cela qui est une bonne nouvelle au cœur de ce monde. Et c'est une fantastique bonne nouvelle parce que ça dilate non seulement le cœur et l'âme, mais toute notre vie. Et ça, c'est une grande nouvelle. Bien sûr que nous avons besoin de sexologues, etc. Mais ça reste, entre guillemets, à la périphérie. Ce qui semble le plus important par rapport à nos vies de couple, par rapport à la sexualité de couple, c'est de découvrir la révélation et la bonne nouvelle qui la concerne au cœur de l'Évangile. Ceci est vraiment un chemin de salut et de grande bénédiction pour nous.